stop you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Marie-Josée Sirache, Marie Sorbier et Philippe Chevillé à notre affiche War Horse à la scène musicale Schwingham Silence au Théâtre de l'Aquarium, Monsieur Motobécane au Théâtre de Belleville et puis un coup de cœur de Marie-Josée Sirache pour Féminine de Pauline Bureau en tournée. Avant toute chose, vous dire notre plaisir de vous retrouver après 4 semaines de grève sans aucune dispute, se priver du lien très privilégié que nous avons avec celles et ceux qui nous font la gentillesse de nous écouter. Toujours un crève-cœur. Toute l'équipe de l'émission a pris part à cette grève à un moment ou à un autre. Et toute l'équipe a signé, comme 67 000 autres personnes à ce jour, une tribune titrée « La radio publique en danger », qui demande au gouvernement de revenir sur la diminution de la contribution de la radio publique. Cette grève est pour l'heure suspendue. L'avenir reste incertain. Il semblait quand même naturel de faire ces précisions avant de débuter cette émission ce soir, parce que nous vous avions plus parlé depuis le 22 novembre. Ça faisait longtemps. Voilà qui est fait. On va pouvoir ouvrir à présent cette dispute avec War Horse à la scène musicale, dont l'affiche indique sans sobriété le chef-d'œuvre aux 8 millions de spectateurs, enfin à Paris, !. C'est vrai que War Horse a reçu, ai-je lu, 25 prix à travers le monde, dont le très sérieux Tony Award de la meilleure pièce de Broadway en 2011, Cheval de guerre en bon français, c'est aussi sous ce titre qu'un film de Steven Spielberg était sorti sur les écrans en 2011 d'ailleurs, adapté du même roman, celui de Michael Morpurgo. Il est ici adapté pour la scène par Nick Stafford, mis en scène par Marianne Elliott et Tom Morris. Le spectacle débarque donc dans un 13e pays. Alors un chiffre pas vraiment porte-bonheur pour ce spectacle présenté à la scène musicale, pas très accessible, comme Marie-Josée Sirache en a fait les frais, ne pouvant se rendre à la scène musicale, ce qui ne nous empêche pas de débuter en chanson. De chansons, c'est vrai, mais pas mal de musique. Ici, en tout cas, pour cet extrait de la bande originale de War Horse, alors une dispute qui commence en duo, Philippe Chevillé et Marie Sorbier. Moi non plus, je n'ai pas vu ce spectacle, Marie-Josée Sirache. Donc on fait 2 duos, hein, les bons élèves et les moins bons. Mais on se rattrapera plus tard. Premier avis synthétique, Philippe Chevillé.
Une sombre épopée spectaculaire humaniste menée au grand galop.
Marie Sorbier.
Une fresque historique qui tient particulièrement grâce à ses objets animés.
Ça ressemble à quoi, War Horse, et de quoi ça parle, Marie Sorbier?
Alors c'est vraiment un grand show à l'anglo-saxonne, donc on imagine très bien ce spectacle qui est en effet passé par Broadway pendant plusieurs mois, ou en Chine, ou en Australie. Ça fait partie de ces grands spectacles comme ça qui tournent dans les grandes scènes du monde. Mais dit ça, ce serait pas leur rendre justice, parce que ce qui est particulier avec ce spectacle, c'est que justement, on arrive et le plateau est nu. Le plateau est nu, à part un écran assez gigantesque qui surmonte le plateau et qui est en forme de parchemin déchiré, comme ça. Écran qui permettra de resituer l'histoire dans le temps, puisque c'est donc un récit chronologique. Quelques dessins également seront visibles sur cet écran donc de parchemin déchiré qui surmonte la scène. Et l'histoire est assez simple et en effet un peu triste, comme l'a signifié Philippe à l'instant. Il s'agit d'une histoire d'amitié entre un jeune garçon de la campagne anglaise et un cheval. Cheval que son père va acheter un peu comme un coup de défi parce qu'il ne voulait pas perdre un pari. Il l'achète bien trop cher pour ses moyens. Il se retrouve donc en famille avec ce cheval et l'enfant dit « je m'en occupe, il est à moi, je vais le dresser et faire en sorte que ce cheval soit un grand cheval ». Du temps se passe, le cheval devient en effet magnifique, très grand cheval, très beau, et le lien avec l'enfant est de plus en plus fort, sauf que la guerre se déclare, Première Guerre mondiale, et l'armée anglaise demande, réquisitionne tous les chevaux en état disponible. Et donc le cheval part de l'autre côté de la Manche, part en France, et là l'enfant tombe en dépression sévère, il ne peut pas vivre sans son cheval, et malgré son jeune âge, décide lui aussi de s'engager dans cette guerre.
Pour retrouver le cheval. Il ressemble à quoi ce cheval, Philippe Chevillier, concrètement sur la scène musicale?
Alors d'abord, il est évolutif, puisque d'abord on a un poulain et tout d'un coup il va se transformer en vrai cheval. Donc les marionnettes sont assez incroyables quand même. C'est vraiment d'ailleurs le point fort du spectacle. Et le point fort en même temps, c'est elles sont pas non plus des prétextes, parce qu'évidemment c'est le héros, le cheval est le héros. Et il y en a plusieurs d'ailleurs, puisqu'on on va le voir rejoindre la cavalerie en France dans les tranchées, ce cheval. Et ils sont donc manipulés. Il y a une douzaine, je crois, de manipulateurs. Il en faut trois par cheval. Et il faut lui bouger les oreilles, les yeux, la queue. Et c'est vrai que c'est assez extravagant. Alors il y a d'autres petits animaux qui sont un peu presque des gags, il y a une oie, il y a des oiseaux, mais c'est vrai qu'on a tout d'un coup l'impression, finalement il y a un petit côté Pinocchio dans ce spectacle, on a l'impression que le cheval se matérialise, alors avec en plus une forme de transparence qui en fait une idée de cheval aussi, et c'est assez étonnant. Ce qui m'a frappé dans ce spectacle, et je rejoins ce que vous disiez, Marie, c'est que c'est un côté grosse machine, mais en même temps, c'est quand même un ovni, parce que c'est pas un spectacle, c'est pas une comédie musicale du tout. Il y a de la musique et il y a des chansons, mais en fait, les chansons, c'est un chanteur qui va chanter un genre de folk du Devon, en fait, assez joli d'ailleurs, bien chanté, qui ponctue, mais sinon, il y a du texte qui est en anglais, qui est surtitré. C'est très sombre parce qu'en fait, on est à la guerre pratiquement tout le temps, à part le début et la fin. C'est ce genre de roman d'aventure initiatique entre un enfant, un cheval. Il y a une forme de mélancolie. C'est donc quelque chose d'assez étrange. Et je crois même que aussi bien l'auteur du roman que les metteurs en scène ne pensaient pas que ça marcherait comme ça. Et c'est vraiment assez incroyable que ça ait marché partout dans le monde anglo-saxon comme ça.
J'ai quand même lu la durée du spectacle, c'est 2h45,
c'est 2h45 avec un entracte de 20 minutes au milieu.
Bon, on est habitué, cela dit, à ce type de durée.
Oui, et puis c'est vraiment une épopée, on est sur une fresque, donc il faut que l'histoire, d'abord que le décor se plante, et puis que l'histoire se développe, et puis qu'il y ait un happy end à la fin, on ne va pas le dire lequel.
Avez divulgaché, Marie Sorbier.
Voilà. Non, je n'ai pas dit comment.
Un blâme.
Voilà, mince déjà.
Ouais.
Mais ce qui est... Pour moi, l'intérêt majeur de ce spectacle, c'est en effet ces marionnettes. C'est-à-dire que c'est ce que disait Philippe, c'est des squelettes de chevaux, en fait, faits de bois et de lanières de cuir pour les jonctions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a trois personnes, en effet, à l'intérieur du cheval et à l'extérieur pour les manipuler, et on les oublie. Le cheval est si bien fait, le mouvement du cheval est tellement réaliste qu'on finit très vite par voir des chevaux en scène. Et ça, c'est assez impressionnant et on se laisse volontiers avoir par tout ce maniement de marionnettes.
Mais ils n'ont pas de dialogue, les chevaux.
Mais ils parlent quand même, sans la parole. Ils communiquent avec leurs oreilles, notamment, entre eux. Si, c'est assez étonnant. Et puis assez lisible. On comprend tout à fait les émotions des chevaux sur scène, je trouve. Que ce soit avec les humains, avec les soldats ou entre eux. C'est assez impressionnant sur le côté émotionnel de ces chevaux, ce qu'ils arrivent à dégager. Alors que ce n'est que du bois et du cuir. Ça, c'est plutôt bien fait et ça tient sur la longueur. Voilà, puisque c'est un peu long, en effet. Et l'histoire, c'est un récit assez classique. C'est-à-dire qu'on devine très vite ce qui va se passer et par quelle épreuve initiatique ce jeune garçon, trop tôt à la guerre, va passer. Mais la maestria de l'animation d'objets fait que finalement, on tient volontiers les 2h45.
Philippe Chevillier.
Ce qui peut lasser, c'est c'est l'histoire, dans la mesure où on est dans les bons sentiments, l'enfant, l'homme et le cheval. On est, bon, y a un discours aussi très, enfin, qui est pacifiste au bout du compte, mais qui est un peu aussi convenu. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se dit bon, qu'il y a un petit essoufflement, il y a tout d'un coup, ça, la machine repart parce qu'on voit ces chevaux qui sautent des barbelés, qui, il y en a qui meurent, des chevaux qui sont dans la mort du cheval en scène est absolument magnifique. Bon, le petit point faible aussi, à mon avis, c'est dans le jeu, puisque c'est quand même du théâtre aussi. C'est, alors, la mise en scène est, bon, sobre, c'est très efficace, très réussi, mais il y a dans le jeu, disons, c'est un petit peu convenu. C'est plus un jeu de comédie musicale que de théâtre. Mmh. Donc, parfois, les sentiments sont un peu trop marqués, c'est un peu trop stylisé.
C'est appuyé, quoi, tout ça.
Appuyé, voilà.
Oui, on oscille vraiment entre les deux. On sent que ça a tous les atours de la comédie musicale comme on peut la connaître à Broadway ou au Châtelet, mais sans la partie musicale. Donc ils ont tous les tics de ces comédies musicales américaines ou anglo-saxonnes qu'on voit passer, sauf que la musique est quand même pas présente au point de définir comme une comédie musicale. En effet, il y a un chanteur solo qui revient régulièrement, il y a quelques chœurs de village ou de l'armée, mais c'est quand même assez secondaire par rapport à la partie théâtre. Et là, en effet, on est vraiment dans quelque chose de très appuyé.
Bon, la musique et la comédie musicale, on aura demain dans la dispute avec un Américain à Paris, Funny Girl, et aussi l'opérette Yes de Maurice Yvain. Marie-Josée Sirage, vous avez envie de poser des questions à vos collègues, vu que vous n'avez pas encore vu le spectacle, comme moi?
Oui, je suis assez curieuse de connaître quand même l'histoire, parce que j'entends bien que ça se situe en pleine Première Guerre mondiale, mais c'est un parti pris très historique, c'est un parti pris, parce que vous parlez d'un texte plutôt initiatique, donc ça s'adresse plutôt à un jeune public, ça s'adresse à qui ?
Oui, il y a deux dimensions. Encore une fois, il y a cette dimension du rapport de l'homme à l'animal et de qui est le héros dans le duo. Ils sont à égalité. Et puis il y a cette histoire, puisque tout se passe quand même j'ai l'impression qu'une bonne moitié à la guerre dans les tranchées. Mmh. Donc c'est montré avec entre les personnages qui peuvent être des soldats anglais, français et allemands, l'inutilité de cette guerre, le côté sanglant. Alors il y a des personnages qui sont odieux, puis il y a des personnages qui ont plus de cœur. C'est justement, il y a un Allemand qui aime les chevaux, donc celui-là il devient presque pacifiste. Donc on sent que le propos se veut pacifiste. Et c'est pas niais, mais il y a encore, mais c'est quand même un roman d'aventure pour il y a un côté adolescent dans ce spectacle.
Ça, c'est bien pour finir. Peut-être.
Quant au côté familial, oui, c'est vraiment le spectacle familial de Noël.
Ça fait pas peur pour les trop petits?
Alors voilà, il faut pas être trop petit.
Un cheval qui meurt, même si c'est une marionnette.
Oui, puis le son est quand même très impressionnant et très fort. Il y a
beaucoup à partir de quel âge, Marie Sorbier?
Ah, je dirais 9-10 ans.
Oui, pas quand avant. Même. Ouais. Ça risque d'être trop impressionnant, trop fort.
Oui, c'est très fort. Et puis il y a des projecteurs, quand le cheval se cabre, par exemple, il arrive en avant-scène, le cheval se cabre, c'est assez beau, mais il y a des projecteurs qui arrivent face publique comme ça, très violemment, avec un son très fort. Les petits autour de moi ont réagi un peu violemment. Et puis la mort des chevaux, puis la mort des hommes dans les tranchées. Il y a quand même des vraies scènes de guerre qui sont assez figuratives. Mmh. Donc entre le son, la lumière, et puis ces morts qui échelonnent comme ça le parcours... En dessous de 9 ans, ça me paraît un peu difficile.
Confirmer Philippe Chevillier.
Bah, moi, je reprendrai un cliché, je dirais que c'est de 7 à 77 ans. 7 ans, l'âge de raison. On peut encore... c'est vrai que les tout-petits s'appelaient. Et puis, il y a l'anglais aussi, qu'il faut que les parents...
Oui, c'est en anglais, en effet.
Oui, faut même savoir, si on comprend très bien l'action, hein, quand même.
Il vaut mieux savoir lire un peu facilement. Et puis bon, devant les difficultés liées aux grèves des transports, la scène musicale a mis en place un partenariat avec les bateaux-bus, donc on peut partir de Concorde en bateau pour rejoindre la scène musicale. Il y a différents moyens d'y parvenir. Non, je dis parce que c'est
vrai. Pourquoi vous me regardez ?
Non, mais je regarde tout le monde. C'est vous qui vous sentez regarder, Marie-Josée. Non, mais c'est assez récent, cette mise en place. Et c'est vrai que c'est un grand spectacle et qui a encore lieu jusqu'à la fin de cette semaine. Et que le public n'est pas au rendez-vous comme, on peut le dire, d'à peu près toutes les salles de spectacle à Paris et dans la région parisienne en ce moment. En tout cas, Warhorse, c'est la scène musicale jusqu'au 29 décembre. Nous allons parler dans cette dispute de Chewing Gum Silence, de Monsieur Motobekan et de Féminine.
France Culture, la dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Chewing Gum Silence. C'est au théâtre de l'Aquarium, spectacle présenté dans le cadre du Festival d'automne, mais aussi dans Brut, le Festival du théâtre de l'Aquarium, sur l'idée d'Antonin Tri-Huang, que l'on retrouve sur le plateau avec les co-auteurs et co-interprètes du spectacle Thibaut Perrière et Jeanne Suzin. Ce spectacle est mis en scène par Samuel Achache, lui-même co-directeur du théâtre de l'Aquarium. Avant même d'entendre un extrait, il nous faut un peu expliquer l'idée, le principe de ce spectacle, et c'est Philippe Chevillier qui va le faire.
D'abord, il y a le titre, Chewing Gum Silence. Pourquoi un chewing gum quand on va à un spectacle musical? Eh bien parce que il existe ce qu'on appelle des vers d'oreille, qui sont des mélodies qui vous rentrent dans la tête et qui sont obsessionnelles, et que ça peut être des pathologies parfois. Et on a découvert qu'en mâchant un chewing gum, on pouvait chasser ces mélodies.
Essaye au bureau, parce qu'on a régulièrement au bureau de la dispute
des vers d'oreille.
Il y a toujours quelqu'un pour le chanter, et c'est compliqué la vie commune dans le bureau.
Mais alors ces mélodies qui nous obsèdent quelquefois, il y a des vers gentils et c'est juste des mélodies qu'on aime bien avoir dans la tête. Et si ces vers sont amicaux, surtout pour un jeune public, ils nous forment à la musique et ils nous font plonger très jeunes dedans. D'où l'idée de ce trio avec Samuel Achache de nous emmener dans les archives des mélodies, là où elles sont entreposées dans des cartons. Donc on a un mur de carton sur scène dans lequel sont entreposées toutes les mélodies qui vont être ouvertes ou fermées à un certain moment. On va entendre des airs. Et l'histoire, c'est qu'il y a une jeune femme qui débarque dans ces archives, qui sont tenues par deux artisans, deux ouvriers qui sont là et qui gardent ces archives. Ils ne savent pas pourquoi elle est là. Elle est là parce qu'elle a perdu la mélodie qui lui permettait de dormir, qui permettait de trouver le sommeil. Donc voilà l'argument de ce spectacle charmant.
Joyeux Dani. Joyeux.
Non, ça va pas. Non, mais moi, il faut que je retrouve ma mélodie, là. Je suis fatiguée, j'ai pas dormi.
Il faut trouver une mélodie d'anniversaire.
Oui, mais je veux bien, mais écoutez, de toute façon, ma fille, elle est même pas là.
Oui, oui.
On ne dit pas s'ils vont trouver à la fin, s'il y aura Happy End, Marie Sorbier, bien sûr.
Je ne dirai rien.
On ne dira rien. Bon anniversaire, sera celui de Pierre Soulages demain, d'Antoine Guillot après-demain, donc on prend un petit peu d'avance. Premier sentiment sur ce Chewing Gum Silence, Marie-Josée Sirache.
L'art de mettre en boîte des mélodies les plus folles et les plus débridées.
Marie Sorbier.
C'est un très joli spectacle sur l'acte même de création.
Et Philippe Chevillier.
Petite cantate entêtante et drôlatique transforme l'aquarium en boîte à musique.
Oui, c'est ce qu'elle a vocation, évidemment, à devenir davantage avec cette nouvelle direction de la vie brève. Samuel Achache et Jeanne Candel, aux manettes de ce théâtre de l'aquarium, qui lui aussi a besoin de soutien. Il compte aussi sur ce festival qui s'y déroule ces temps-ci, jusqu'à début janvier, me semble-t-il, pour pouvoir ensuite financer le reste de la saison, notamment un prochain festival qui aura lieu au printemps. Et finalement, c'est pas si loin, l'aquarium. D'abord, la ligne 1, quand elle n'est pas bloquée, est automatisée, donc elle marche plutôt mieux que les autres. Ensuite, il y a des bus et puis on peut se mettre au vélo comme Philippe Chevillier. Bravo. Philippe Chevillier. non, mais c'est beau. Donc, si vous aimez et vous aimiez déjà les spectacles de Samuel Achache et de Jeanne Candel, de l'un, de l'autre, des deux, rendez-vous à l'aquarium. Mais ouvrons vraiment cette dispute. Marie-Josée Sirache sur ce Chewing Gum Silence.
On retrouve tout l'univers féerique de Samuel Achache et de Jeanne Candel. C'est vraiment... C'est un très joli spectacle, comme le disait Marie, c'est un spectacle pour le coup tout public, parce que on avait même un petit bébé de 9 mois, un poupon magnifique qui babillait à contretemps, mais c'était extrêmement joli et ça répondait, et les musiciens lui répondaient et c'était très charmant. Il y a un côté presque désuet dans ce spectacle, parce que il est très simple. Il est comme dénudé, parce que on raconte l'histoire de la mélodie qui est, comme ils le disent, la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire il y a la musique et puis cette mélodie, celle qui nous reste dans la tête, qui nous trotte dans la tête et qui nous poursuit pendant des jours, pendant des nuits, qui nous fait rêver, qui nous fait tenir, qui nous ouvre l'imaginaire. Et effectivement, dans ce lieu un peu étrange, fait de carton, empilés les uns sur les autres, les mélodies sont classées, en tout cas en passe de lettres, elles sont archivées. C'est un petit peu le désordre. Et évidemment, quand arrive cette jeune femme toute pleine de candeur qui voudrait retrouver sa mélodie pour retrouver le sommeil, Michel sont totalement paniqués. Donc, évidemment, on ouvre les cartons, c'est jamais le bon, donc des sons s'échappent. Et puis, ce qui est très beau, c'est de voir, à partir de là, comment eux, ils sont tous les trois virtuoses, évidemment, entre la batterie, la guitare, le hautbois, le piano, passent d'un instrument à l'autre, et tout d'un coup, ça part. Il suffit juste d'un petit coup, comme de baguette magique, et la mélodie s'envole, et hop, nous enveloppe. Et on rentre dans ce spectacle par plein d'endroits. C'est assez magique.
Marie Sorbier ?
Oui, moi, ce qui m'a totalement fascinée et conquise, c'est que j'ai retrouvé dans ce spectacle toute l'importance du processus créatif. Et je trouve que c'est ça qu'ils ont mis en scène. Et je trouve ça tellement intéressant pour des enfants de voir, non pas toujours le résultat final, mais comment on arrive à un morceau au final, parce que ce qu'ils font, c'est de l'improvisation. Donc on ouvre des boîtes, en effet, il y a des sons, des rythmes, une note, tout ça s'échappe. Il faut le dire que les instruments sont sur scène, je ne sais pas si on les a dit, cachés derrière les cartons au départ, et puis au fur et à mesure, on commence à les dévoiler et à les voir. Et une boîte ouverte va déclencher une mélodie, on vient de l'entendre, comme ce bon anniversaire, comme plein d'autres. Il y a une Marseillaise, je crois, à un moment donné. Enfin, il y a plein de, comme ça, de mélodies connues ou pas qui s'échappent. Et ils en font autre chose. Ils se mettent derrière leurs instruments et puis ils recréent une autre mélodie ou une mélodie à eux. Et ça, de voir cet art en train d'être fait et en train de se faire avec autant de plaisir et de légèreté et de sérieux, le tout adressé aux enfants de tous âges, j'ai trouvé ça absolument charmant et vraiment très réjouissant. Et encore une fois, Samuel Achache, moi j'admire beaucoup son travail, enfin Jeanne Candel aussi, mais je trouve qu'ils arrivent toujours dans leur création artistique à proposer ce type de spectacle-là. C'est-à-dire, c'est toujours un peu foutraque, un peu brouillon, il y en a un peu partout, et en même temps, c'est très précis. Et là, sur la musique, il y a quelque chose de très juste, de très précis. Et puis les musiques qui sont proposées en improvisation sont belles. Et on a plaisir en tant qu'adulte à écouter ce spectacle et à voir où ça mène.
Philippe Chevillier, à présent sur Chewing-Gum Silence.
Mais c'est sûr que c'est déjà un spectacle presque cadeau de Noël, parce qu'on ouvre des cadeaux, on ouvre des boîtes, on attend ce qui va sortir des boîtes. Et comme vous disiez, Marie, c'est pas on va pas avoir droit à toute la série des la chenille ou les choses comme ça. Il y a des airs qu'on connaît un peu, mais qui sont inventés. Et il y a toute une leçon de musique sur ce qu'est la mélodie et les harmonies derrière qui font que la musique peut être totalement différente à l'arrivée, avec ce côté impro dont vous parliez. Donc il y a un bel équilibre entre la création théâtrale et la création musicale, sachant qu'en plus il y a une poésie, il y a vraiment des inventions très drôles, comme la note qui est scotchée au plafond, comment on va la décoller. Donc je ne le dirai pas.
Peut-être
qu'on va y arriver. Et une partie de Mikado aussi qui est pas mal. Il y a des boîtes qui sont complètement folles parce que les mélodies sont un peu parties en vrille à l'intérieur et il faut se méfier. C'est vraiment très joli de bout en bout. Et j'ai bien aimé aussi cette idée qu'au fond, pour les enfants, après tout, présenter quand même des archives, ça a peut-être un petit côté un peu austère. Donc à la fin, il y a cette histoire qui est de la forêt, et de la forêt avec les arbres à musique. Donc il y a un moment où ça décolle dans un autre univers poétique, pour bien montrer que la musique, c'est pas seulement évidemment quelque chose qu'on garde à un musée. Il faut expliquer aux enfants que la naissance de la création, c'est quelque chose c'est dans un jardin merveilleux, c'est dans un, et après on les garde dans des cartons, mais que d'abord elles sont nées ailleurs. Voilà.
Marie-Josée Serrache.
Ça s'adresse aux enfants, mais ça s'adresse aussi aux adultes, je trouve. Hein. C'est vraiment pas uniquement pour le jeune public. C'est pour reprendre votre formule tout à l'heure de Philippe, de 7 à 77 ans, parce que il y a des détournements mélodiques permanents, et effectivement, ce qui permet d'ouvrir tous les imaginaires, c'est l'impro, c'est-à-dire ce sont de très bons musiciens, et l'impro leur permet d'aller dans des endroits improbable, de jouer, y compris avec des instruments différemment, de détourner leur usage premier ou évident, que ce soit avec le piano, avec la batterie. Donc c'est très très bien construit, c'est très intelligent, c'est très fin. Et ça part de créer zéro de connaissance, c'est-à-dire on n'a pas besoin de connaître comment marche un instrument, tout ça. Et ça nous apprend en s'amusant, enfin, mais même si le côté didactique est pas appuyé, il est fait avec beaucoup de délicatesse, de finesse et d'intelligence.
Marie Sorbier, à nouveau.
C'est aussi un spectacle, je trouve, très juste sur les émotions et comment l'art permet de les exacerber, de les contenir, de les calmer, de les amoindrir. Enfin, il y a toute cette notion-là. Cette femme qui arrive et qui cherche sa mélodie ne peut plus dormir. C'est-à-dire que si elle n'a plus sa musique à elle pour s'endormir, le sommeil lui manque. Et donc, c'est terrible et elle est en danger puisqu'il faut absolument retrouver cette musique pour que cette femme puisse dormir. Je trouve ça très beau d'insister comme ça l'idée que l'art est nécessaire à la vie. À ce point-là.
Pardon, Philippe Chevillier.
Ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est la façon, mais c'est presque dans tous les spectacles de Samuel Chèche et de Jeanne Candel qu'on voit ça, c'est cette façon d'arriver à faire de transformer les musiciens en acteurs, parce qu'il y a des vrais personnages. C'est-à-dire que Antonin Trihoang, il est vraiment, il a quelque chose d'un personnage un peu de cartoon et de bande dessinée. Chacun, tel qu'il est mis en scène, arrive à imposer un personnage. Et ça, je trouve ça très joli aussi. Même si par moments, on sent qu'il y a des petits flottements dans le jeu, mais c'est pas grave. Comme vous disiez, c'est un peu brouillon. Mais ça, on se rattrape toujours parce qu'on est attaché à ces personnages qui partent un peu dans tous les sens.
J'ajouterais juste que chez HH, et c'est ça qu'on retrouve toujours chez lui, c'est sa capacité d'autodérision. On rit toujours, et les musiciens eux-mêmes rient de leur propre manie, de leurs propres habitudes, de leurs propres réflexes, de leur propre automatisme. Et ils se mettent eux-mêmes en boîte. Et c'est ça qui est toujours plaisant chez lui.
Bah, peut-être profiter du temps qui reste, parce que vous en avez très bien parlé, pour donner quelques autres dates de Bruit, parce que les prochaines représentations pour Chewing Gum Silence, ce sera seulement les 10 et 11 janvier, parce que ce festival Bruit, théâtre et musique, il se déroule jusqu'au 25 janvier au Théâtre de l'Aquarium. Alors il y a beaucoup de choses à y voir, à y entendre. Bon, si vous ne savez pas où aller le 31 décembre, il y aura un bal, swing, DJ, spectacle, pot-au-feu, let's dance, hein, c'est présenté comme ça, donc le mélange est pas mal. Et puis après, il y aura Katia Hunsinger, Joss de Pau et Chris Defort, il va y avoir Joss de Pau et Dominique Powells, parce qu'il fait plusieurs spectacles là. Il y aura donc de nouveau des dates pour Chewing Gum Silence, Sarah Le Picard, il y a beaucoup de beau monde qui vient à Heinlesenburger, et puis on retrouvera encore des spectacles, alors précédents pour le coup vraiment co-signés, Samuel Achat, Jeanne Candel et Florent Hubert, c'est la chute de la maison qu'on retrouvera aussi. Demi Véronique, qui était la dernière création en date, me semble-t-il, de Jeanne Candel, ce sera à nouveau donné le 31 décembre. Et puis l'ensemble Correspondance viendra aussi deux ou trois fois durant ce festival Bruit. Vous allez sur le site du Théâtre de l'Aquarium et vous aurez tous les renseignements concernant cette riche programmation qui signe vraiment cette nouvelle direction du Théâtre de l'Aquarium. C'est l'heure du coup de cœur de Marie-Josée Sirach. Ce coup de cœur, je vous préviens tout de suite, va se transformer en mini-dispute. Ce coup de cœur, il est pour Féminine de Pauline Bureau. Nous aurions dû en parler il y a quelques semaines lorsqu'il était présenté au Théâtre de la Ville dans sa salle des Abbesses. Mais il est en tournée, ce spectacle, et c'est tant mieux. Marie-Josée Sirach va nous dire pourquoi elle l'a aimé, ce spectacle.
féminine, donc de deux, est mise en scène par Pauline Bureau. J'ai effectivement vu aux Abbesses, mais il y a une très très grande tournée. Ouais. C'est une histoire de femmes et de foot, ce qui est des femmes qui de 16 à 30 ans, par goût, par hasard, par curiosité, répondent à une petite annonce publiée dans le journal local.
En 1968.
J'allais venir, en vue de constituer une équipe de foot féminine. Et nous sommes en 68, et c'est ça qui est intéressant, parce que depuis 1941, un décret de Vichy, les femmes ne peuvent pas jouer au foot en France. Donc ce qui au départ est une aventure un peu comme ça, une blague ou ce qu'on veut, va demain venir une aventure assez extraordinaire, une épopée et portée par ces pionnières qui, malgré le poids des traditions, l'incompréhension de leur entourage, vont s'émanciper à l'insu de leur plein gré, pour certaines, pour devenir de sacrées footballeuses et des femmes indépendantes qui conquièrent leur liberté, leur autonomie. Donc tout ça est présenté sur le plateau avec une très belle scénographie d'Emmanuel Roy qui rend compte de tous les espaces de jeu théâtral et de jeu footballistique. Mmh. C'est-à-dire qu'on a d'abord au premier plan les vestiaires et puis à cour à jardin par l'entremise de deux panneaux coulissants des intérieurs de chez l'une et de chez l'autre. On a même une forêt parce que l'une d'elles vit un petit peu en retrait de la ville. Ça se passe à Reims. Et ensuite, au deuxième niveau, on a l'usine où l'on voit trois ou quatre de ces mêmes filles qui forment cette équipe de foot amatrice aller au turbin, au chagrin. C'est-à-dire qu'elles sont ouvrières dans le textile et dans des conditions extrêmement dures, puisqu'elles ont les mains attachées pour éviter que la presse ne leur écrase les doigts. Donc il y a toute une gymnastique des bras entravés, et en même temps c'est peut-être par le pied qu'elles vont se libérer, qu'elles vont courir et s'émanciper dans leur vie intime, et dans leur vie professionnelle. Et je trouve que Pauline Bureau raconte cette histoire merveilleusement bien. C'est drôle, Moi, je suis ressortie de là galvanisée. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de feu du début à la fin, avec des actrices et des acteurs, parce qu'il y a quand même trois hommes sur le plateau, qui sont d'une justesse. On retrouve l'ambiance des années 70, c'est extrêmement bien fait, tout est juste. Elle a travaillé à partir de témoignages de ces footballeuses, certaines d'entre elles, et elle a imaginé des vies possibles, et je trouve que ça se tient magnifiquement bien.
Féminine qui va se donner, après ce début de tournée, à Cesson-Sévigné, là je parle du mois de janvier, puis à Belfort, à Fos-sur-Mer, à Toulon, en février ce sera Dunkerque, Nesle, Angoulême en mars, ainsi que Mulhouse et Châtenay-Malabry, et même Thionville, pas mal de dates qu'on retrouvera sur notre site bien sûr, mais mini-dispute, on a un petit peu de temps ce soir. Marie Sorbier, pas d'accord ?
Pas du tout d'accord, pour moi c'est vraiment un gros problème ce spectacle, et sur plusieurs points. Alors je me souviens, on s'était déjà disputé avec vous Philippe sur son spectacle précédent à Pauline Bureau qui s'appelait Hors la loi.
Ça va recommencer
au Français, et c'est un peu les mêmes arguments, mais là je vais aller encore plus loin je crois. Ce qui me gêne profondément, ce sont deux choses. La première, c'est que pour moi ce n'est pas du théâtre et que je vois à aucun endroit de cette proposition du théâtre, c'est-à-dire que tout est figuré au premier degré, c'est-à-dire que le mot est immédiatement relayé par l'image ou le geste. Il n'y a aucune distanciation et donc il n'y a pas de théâtre. La décoration, c'est vraiment de la décoration, on n'est même plus dans la scénographie, c'est très mastoc, ça prend vraiment tout le plateau. Moi, j'ai trouvé ça assez désuet, alors pour le coup, esthétiquement, mais c'est pas tellement le problème. Je crois que fondamentalement, Pauline Bureau, elle souhaite écrire des fictions pour la télé. C'est tellement télévisuel que ça en enlève toute la magie du théâtre. Les comédiennes, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Je pense qu'elles font ce qu'on leur dit, mais elles sont tellement au premier degré de ce qui est dit que ça empêche, mais alors toute réflexion. Le public est, pour moi, nié. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun endroit de pensée, d'imagination. Tout est donné, tout est prémâché, tout est même déjà digéré. Et en effet, on a l'impression d'être sur une fiction France 3 qui serait comme ça bien, bien remplie de bons sentiments et qui dégouline un peu de toutes les cases à cocher en ce moment, de tous les sujets dont on peut parler en ce moment. Pauline Bureau a l'art de cocher les cases pour que ce soit tout à fait.
J'attendais la fin de la phrase. Hein,
oui, parce que non, mais c'est parce que c'est des spectacles qui m'énervent en fait, que je trouve ça assez problématique qu'ils soient présentés dans les théâtres publics. Je trouve que leur place est dans le théâtre privé éventuellement, mais pas avec de l'argent public.
Alors, si le public est nié. Il est debout à la fin du spectacle.
Tout
J'imagine
à fait.
Que pour vous, comme quand je l'ai vu, comme quand nos camarades l'ont vu, c'est un triomphe.
Oui, parce qu'il y a une
absolue.
Facilité qui fait que le public, tout ça, public, ça, peut le recevoir.
C'est votre regard. Celui de Philippe Chevillier est aussi différent, visiblement.
Oui, moi je pense qu'il y a du théâtre qui est un peu dans la suggestion, dans l'énigme, et puis il y a du théâtre qui dit les choses, qui les dit par des formes un petit peu naïves, mais très directes, très concrètes. Moi, je ne pense pas du tout aux séries télé, je pense à un peu à une héritière à la fois de Pommera et de...
J'étais un peu surpris par cette comparaison, mais
parce qu'il y a dans le jeu très direct et tout ça qui peut y
oui,
avoir.
Oui, mais je suis d'accord avec la comparaison.
Et de Robert Lepage. Donc parce que Lepage, il fait ça aussi quand les gens prennent un avion, il les monte dans l'avion, on a le décor de l'avion, etc. Mmh. En plus, ça, une habileté parce que cette histoire est vraie et comment montrer le foot sur scène. Donc tout ce qui est partie de foot est montré sur un écran. Comme et moi, ce qui est habile, c'est qu'on vit la progression de ces femmes comme un peu une coupe de monde de foot. Et comme moi, quand je regarde un peu, alors pour le coup, effectivement, un résumé lorsqu'on a été championnat du monde et tout ça, il y a cette dimension-là qui est effectivement au premier degré. Et ensuite, on a toutes ces histoires d'émancipation qui sont par petites touches, par petites vignettes naïves, mais d'ailleurs, je vois pas pourquoi ça serait l'apanage du privé que de faire du théâtre populaire et le public de pas en faire. On peut être populaire et exigeant. Moi, je pense que c'est exigeant. Oui. Je pense que comme dans Hors-la-Loi, comme dans le cœur, ce spectacle féminin est un spectacle qui parle directement aux gens, qui traite des problèmes d'aujourd'hui effectivement, mais pas de façon appuyée. C'est à chaque fois avec des petits décalages, des petites formules, encore une fois des petites vignettes et des comédiennes qui sont formidables et qui portent. C'est une histoire aussi de troupe. Moi, j'avoue que je ne vois absolument aucun défaut à ce spectacle.
Alors bon, j'en vois quelques-uns, mais en même temps, je précise, contrairement à vous, Marie Sorbier, je pense que ce spectacle, on peut pas en dire du mal. Mais ça veut dire la même chose que ce que vous venez de dire, en fait.
Exactement.
Parce qu'il est tellement au bon endroit ou aux bons endroits. Il y a une efficacité qui est indéniable. Après, on peut en être plus ou moins amateur. Des reproches quand même sur les vidéos. Donc, dès qu'elles sortent sur l'entraînement, le terrain, le relais se fait par écran vidéo et par film pré-tourné. Il y en a quand même beaucoup. Ils sont très répétitifs. Il n'y a aucune évolution. Alors, aucun cinéaste, de grand cinéaste, n'a réussi à filmer le football. Donc, je n'en veux pas à Pauline Bureau de ne pas arriver à filmer le football. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était la répétition était quand même assez lassante. Et l'utilisation de la musique, c'est pareil. Là aussi, ça finit sur Beyoncé, tout le monde est debout. Mais avant, on aura eu Gossip. Enfin, il y a des facilités, des béquilles quand même qui font que le spectacle dure 2 heures. Et s'il avait duré 1h30, je l'aurais sans doute trouvé meilleur encore. Moi, je trouve que les comédiennes sont bien parce qu'elles font exactement, et les comédiens d'ailleurs, aussi, ils font exactement ce pourquoi ils sont là. Efficacité, c'est un débat assez compliqué parce que est-ce que le théâtre doit être aussi accessible pour toucher le public? Et le fait est qu'il le touche, hein, vraiment. Encore une fois, les salles, sont toutes debout à la fin des représentations. Mais est-ce que un peu de subtilité ne mûrait pas? Quand vous parlez de tous les sujets, c'est vrai qu'il y a une toute petite séquence qui n'est pas la plus réussie sur les violences conjugales. La grève est à peine esquissée. La question de l'émancipation et des rapports parents-enfants. Il y a tellement de sujets abordés que j'étais un peu frustré. L'homosexualité, qu'il soit à peine survolé. Vous voyez ce que je veux dire, Marie-José Sirage? Je suis moins critique que Marie Sorbier.
Oui, moi je regrette pour Marie que vous soyez ennuyée parce que...
Non, mais c'est agacé. C'est ennuyé, c'est agacé. C'est autre
oui,
chose.
Agacé. Je vois pas très bien... Pourquoi un spectacle, c'est pas le public hein, qui dicte mon point de vue, hein, jamais, parce que sinon à ce moment-là, les chiens de Navarre, pour moi ça c'est un scandale.
Ah, je suis d'accord aussi.
Ça pour moi ça a été le spectacle
le plus
terrible que j'ai vu.
Je l'ai pas vu non plus.
Je suis d'accord avec vous totalement.
Pour le coup,
bon, féminine, Pauline Bureau.
Féminine, je trouve que c'est respectueux du public. Ça raconte une histoire qu'on ne connaît pas forcément. Donc déjà quand même, il y a une dramaturgie, il y a eu un travail d'écriture, il y a un travail de mise en scène, de mise en jeu, de mise en espace. Je suis désolée, moi j'entends ce que vous dites, mais quand même, ça se tient ce spectacle. Il n'est pas honteux. Oui. Il n'a Alors, le coût du privé, là, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Parce que, heureusement qu'on peut trouver quand même que tous les spectacles dans le public n'ont pas la même esthétique. Heureusement qu'on a le droit de monter des productions différentes. Alors, on leur colle des étiquettes. Ça peut être documentaire, ça peut être je sais pas quoi. Je m'en fiche. Au bout du moment, ça reste du théâtre. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça embarque le spectateur dans une histoire. Ça le fait réfléchir parce que, quand même, on nous dit tout, mais non, on mesure, ça nous permet de mesurer aujourd'hui le chemin parcouru et ce qui reste à parcourir pour que le foot, on en est encore au balbutiement, mais entre la période où cette histoire se déroule et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on retransmet les championnats du monde de foot à la télé, mais c'est récent, enfin, donc c'était il y a 50 ans.
Football féminin.
Oui, féminin, bien sûr. Oui. Pardon.
Mais sur le fait qu'il y ait quand même beaucoup de sujets abordés et à peine abordés, vous voyez ma réserve là-dessus
Mais oui, sauf que c'est centré. Enfin, je veux dire, c'est pas un catalogue.
Un peu.
Non, justement. Non, parce qu'il y a que. Enfin, il y a l'histoire des ouvrières. Bon, en tout cas,
et
l'usine.
C'est tout le temps.
La grève, elles sont là. Enfin, soit elles travaillent, soit elles sont en grève. Et comment, y compris. L'une d'elles qui se révèle finalement sur le terrain se révèle à l'usine et prend la tête de la grève. Donc ça c'est pas anodin. Il y a la plus jeune d'entre elles dont le père ne conçoit même pas qu'elle fasse du foot. Donc elle ment avec la complicité de sa mère. Donc le rôle des mères là-dedans, comment elles soutiennent ou pas leur fille, elle lui raconte qu'elle va faire de la danse classique en tutu. Et il y a l'autre jeune femme, il y a une autre jeune femme qui elle à des déboires avec son conjoint qui effectivement lui ok ma chérie tu travailles maintenant mais dès qu'on se marie tu restes tu fais bobonne à la maison en clair c'est ça et il y a cette autre jeune fille qui elle est plus un personnage un petit peu plus grunge un peu plus trash et qui voilà elle est sur et c'est une joueuse de foot dès le départ qui s'assume et qui le revendique
bon. Vous avez parlé de Philippe Chevillier pour finir.
Juste pour dire qu'effectivement, il y a ces petites scènes, ces scénettes, je pense que c'est volontaire, il y a une forme de naïveté. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier non plus que ce spectacle est présenté, assumé et ressenti comme une comédie. C'est un spectacle léger, c'est pas du tout comme
la
loi.
Ça, c'est à mettre au crédit, en effet, de Pauline Bureau.
Et voilà.
Bon, féminine, beaucoup de dates en tournée à venir du mois de janvier au mois de mars, et nul doute. On le souhaite pour elle, que le spectacle continuera à tourner.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche, c'est Monsieur Motobekan, à voir au Théâtre de Belleville. Au départ, il y a un fait divers qui devient un livre, Le Ravisseur de Paul Sabatier, puis un film, La Drôlesse de Jacques Doyon, et aujourd'hui un spectacle, Monsieur Motobekan, écrit par Bernard Crombet, qui en co-signe la mise en scène avec Catherine Maignan et qui joue ce spectacle seul en scène. Il a été créé au Théâtre du Rond-Point en 2009. Monsieur Motobekan a été joué plus de 500 fois. Alain Cavalier a aussi consacré un film à cette aventure sous le titre Six portraits Excel. Bernard en écoute un extrait de ce spectacle.
Quand j'ai demandé à un cahier à écrire ma vie de vérité, les gardiens de ma chambre à barreaux, ils sont moqués de moi. Ils croyaient que je connaissais rien à lire, à rien d'écrire mon nom. Tous bien étonnés que je pouvais remplir une page en 5 minutes sans manquer un S à la fin des mots. À demander un crayon papier avec une gomme, m'ont donné un bic à couleur. Moi, j'aime pas ça. Il glisse pas bien sur la feuille. Elle doit tout rouge à la fin de la journée à force d'appuyer sur le bic. Le gardien de la prison, il a dit... Pas droit à un crayon, droit rien qui coupe. J'ai un frère, Albert, le bébé qu'on l'appelle, le que je suis surtout cadet. Lui, il a bien sauvé sa vie. C'est un fait boulanger à plus de 500 km de la maison, gagné la paix famille. Moi, j'ai quitté l'école à 14 ans, je suis un quitte à 14. Une vie normale, c'est pas bon signe, ça. Un kick à 14, ça fait souvent rien de bon à l'arrivée, et on m'a mis le matin même à la ferme. Pourtant, j'aimais tout de même bien les choses à l'école. Surtout la retenue conduire et l'orthographe. passait le chemin et puis fleurit de couleurs. Longe grand bois, tout contre la rivière. À la pluie, à la neige, au soleil, couleurs toujours magnifiques.
Monsieur Moto Bécane, premier tour de table pour un avis synthétique, Marie-Josée Sirache.
Un monologue intérieur violent, cruel, mais d'une très belle humanité.
Marie Sorbier.
C'est un seul en scène qui touche par la justesse de ses intentions.
Philippe Chevillier.
Une fable désespérée sur les ravages de la solitude et le mal qu'on fait aux enfants et aux hommes.
Marie-Josée Sirache, qui est donc ce monsieur Moto Bécane qu'on a entendu, comment nous raconte-t-il son histoire ?
C'est un drôle de gars, ce monsieur Moto Bécane. Il nous parle depuis sa prison, qui est figurée par un plateau un peu penché et sur lequel il se déplace un peu, de temps en temps. Il écrit des lettres au juge. Il écrit des lettres parce qu'il clame son innocence. Et effectivement, cette histoire, c'est celle d'une enfant qui disparaît. Les gendarmes, tous les habitants du village sont à sa recherche. Et l'enfant réapparaîtra 3 semaines plus tard, en bonne santé, saine et sauve. Mais la vox populi, la justice, et la machine judiciaire vont s'acharner sur celui qui a caché cet enfant pendant 3 semaines, le transformant en ravisseur, en bourreau, en monstre, alors que cet homme-là, qui parcourt la campagne à mobylette pour ramasser les bouteilles de verre et les rapporter à la consigne, c'est un simplet, c'est un innocent, comme on disait autrefois, comme on en trouvait dans les villages. Et le mot innocent, tout d'un coup, revêt une autre dimension avec ce spectacle.
Marie Sorbier.
Oui, ce qui est touchant aussi, c'est vraiment un seul en scène sans fioriture. Et tout tient sur la performance de Bernard Combet. On l'a dit, je crois qu'il en est à sa 500e. Enfin, ce spectacle a tourné depuis de nombreuses années. C'était un des grands succès du Festival d'Avignon pendant...
Du off,
exactement, pendant plusieurs années. Et il a tellement ingéré ce monologue que ça en devient presque... Voilà, on le sent sortir par toutes les pores de sa peau. Et ça, c'est assez beau à voir en tant que spectateur.
Presque inquiétant, moi, je trouve, ce type de vie longue d'un comédien seul en scène avec un spectacle.
10 ans avec le même spectacle, c'est quelque chose d'étonnant. Surtout, vu ce qu'il raconte,
oui,
parce que
c'est
tout à fait... glauque. Et ce qui est très beau, alors aussi, c'est le travail de la langue, c'est-à-dire qu'il a, comme on l'a entendu dans l'extrait, cet accent picard. Le fait divers se passe, je crois, à l'origine dans le sud, mais lui l'a ramené le nord,
sur ses terres,
voilà. Et le travail de cette langue, c'est vrai que les 5 premières minutes, on peut se demander où est-ce qu'il se place, est-ce qu'il se moque, est-ce qu'on est dans une fausse comédie, est-ce qu'on est dans un espèce de rapport d'exotisme comme ça mal placé, et puis pas du tout, très vite, il y a cette sincérité qui, moi, ce qui m'a le plus touché de ce spectacle, c'est ça, c'est qu'il y a une sincérité, il parle avec cet accent qui devient très beau au bout d'un moment, les images qu'il emploie, ces tournures grammaticales étonnantes, et on se plaît à écouter cette langue, ça devient une vraie langue à part entière, et ça c'est aussi une des vertus de ce spectacle, au-delà de l'histoire tragique qu'il raconte, et en effet de ce que ça dit de la méchanceté humaine et de selon où on est dans l'échiquier social, de comment on est traité par la justice. Ce qui est beau dans cette innocence dont vous parliez, Marie-Josée, c'est qu'il essaie, lui, avec toute la simplicité dont il est revêtu, d'expliquer la vérité. C'est-à-dire qu'il raconte cette histoire où il a trouvé cette petite fille au bord de la route. Il l'a fait monter sur sa moto et puis cette petite fille, elle voulait plus rentrer chez elle parce que sa mère là-bas. Et elle lui demande de rester avec lui. Est-ce que lui est gentil avec elle? Et donc, il la garde pour cette raison. Et évidemment, il ne se passe rien dans ce grenier à part qu'il s'occupe d'elle. Et il est traité de tous les maux, de pédophile, de tout ce qu'on veut. Et il essaie d'expliquer à ce juge qu'il n'a fait que être un homme bon. Et le juge le prend pour ce à quoi il ressemble, c'est-à-dire un homme simple, qui n'a pas d'éducation, qui ne sait pas s'exprimer, et donc le coupable idéal, et hop, on le met en prison, et on ne l'écoute pas. Et toutes ces moments où il parle de ce lien avec le juge, où il ne comprend pas pourquoi, en fait, alors qu'il dit la vérité, il n'est pas cru, sont assez troublants, je trouve.
Philippe Chevillier, sur Monsieur Moto Bécane.
Oui, moi je suis aussi très sensible à après le choc du spectacle qu'on reçoit au premier degré, sur l'écriture, puisqu'il y a effectivement un double niveau. On sait que cet homme simple n'arrive pas à s'exprimer, qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, en tout cas à se justifier, à raconter ce qu'il a vraiment vécu, qu'il ne trouve pas les mots face à la justice, face à... Et on a un texte qui est lui-même une adaptation de donc c'est, au départ c'était Le Ravisseur de Paul Sabatier qui est un roman qui est paru en 78. Et il en a fait, c'est donc Bernard Combet, qui connaît bien la Picardie, en fait une adaptation picarde. Donc, et là, il y a une poésie de ces mots très simples et ces mots tout très justes qui nous on comprend, le public a une empathie, comprend ce que la justice aveugle et la rumeur folle n'a pas voulu comprendre. Ce qui est très fort aussi, c'est qu'on est quand même dans un... on est sur le fil. C'est ultra solide, parce qu'on peut toujours, d'ailleurs... penser que le personnage qui raconte, en fait, c'est lui, c'est ses mots, c'est ses paroles, mais il a cette ambiguïté. Il y a cette ambiguïté de sa situation qui fait que parfois on pense qu'il va déraper, qu'il est en train de justifier en fait l'innommable. On reste sur ce petit fil, mais évidemment le propos de Combet c'est de défendre quand même le personnage, mais on a cette ouverture. C'est pas un personnage complètement artificiel, etc. Et puis, on voit bien dans ce texte la complexité, évidemment, des sentiments humains, les rapports entre les enfants et les adultes, qui sont si compliqués. Et je trouve que c'est très bien exprimé, de façon assez sobre. Oui, puisqu'il n'y a pratiquement pas de décor, ce plancher incliné qui représente une cellule.
C'est cellule, ouais.
Le casque de moto et la moto bécane, au fond, qui est comme un espèce de totem.
Marie-Josée Serrache, à présent.
Oui, sur le rapport des enfants et des adultes, il est lui-même un enfant, Monte Bécane, c'est ça. Et il est au même niveau que la petite fille, c'est-à-dire qu'il la comprend, il comprend sa douleur.
Il parle même langage.
Il parle exactement le même langage, et c'est ça qui est très touchant, parce que évidemment qu'il ne va rien lui faire à cette petite fille, mais ça dit toute la fantasmagorie qui peut naître à partir de la disparition d'un enfant, les peurs, les craintes, les fantasmes qui se développent. Et lui va être la victime, le coupable idéal. Ça, c'est terrible. Et sur l'accent et sur la langue, c'est vrai qu'il y a l'accent picard qui est extrêmement bien rendu, qu'on entend merveilleusement bien. Et puis, il y a surtout cette langue. Et une langue, comme vous le disiez, Marie, d'une richesse inouïe. C'est une fable paysanne avec un parler paysan qui n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que ça s'adresse à nous. Nous, on est à Paris, on est très, très urbain, et on entend cette langue-là, et elle nous parle avec une poésie, avec un naturel incroyable, et on comprend tout ce cheminement intérieur, parce que c'est ce qu'il écrit. Alors, il y a des morceaux qu'il écrit au juge, des morceaux dans sa tête, et on se dit, cet homme-là qu'on considère comme un benêt, a une écriture parfaite, c'est-à-dire qu'il écrit superbement bien, il n'oublie jamais un S, il y a toujours les S à la fin des mots qui reviennent, parce qu'il a dû prendre des coups, on se dit, des coups de règle sur les doigts, et tout ça ressort, et c'est une histoire très belle, très émouvante, très... très intelligemment interprété.
Philippe Chevier, quelques mots encore.
Oui, juste pour dire que dans l'art du comédien, il y a l'art du conteur, c'est-à-dire qu'il y a une forme de charisme qui fait qu'on est happé, qu'il est toujours très juste, qu'il a le sens des effets sans en faire trop, avec une sobriété incroyable. Et la deuxième chose sur l'actualité du propos, c'est aussi, on est dans une époque où avec les réseaux sociaux, on a vite fait de condamner, de juger. C'est donc un texte qui, 10 ans après... À son actualité et à sa puissance, et qu'il faut écouter.
Conclusion de Marie Sorbienne, non, sur Monsieur Moto Bécane.
Aussi qu'il y a quand même des passages drôles. Là, on a beaucoup parlé de la gravité du sujet, c'est vrai, mais il y a quelques passages qui sont quand même très drôles. Quand on lui dit, mais quand même, tu n'as toujours pas connu de femme, il faut que tu ailles trouver quelqu'un, et il se retrouve chez une marieuse qui lui fait un catalogue en lui demandant s'il la veut grande, petite. Et de sa façon à lui de raconter ce moment, jusqu'au moment où en fait il ne peut pas payer le service de cette dame, donc finalement ça n'a servi à rien, puis il reprend le train. Tout ce passage est quand même très drôle. Il y a plein de moments comme ça où de plaisir d'écouter ce texte et cette langue, et puis cet homme qui essaie de se débattre avec la vie.
Monsieur Moto Bécane se donne au Théâtre de Belleville à Paris jusqu'au 31 janvier. C'est du dimanche au mardi. Vous savez qu'il y a beaucoup de spectacles, et on en parle régulièrement d'ailleurs au Théâtre de Belleville. En l'occurrence, pour Monsieur Moto Bécane, c'est dimanche, lundi, mardi. avons le bonheur, c'est un peu Noël avant l'heure, que Aïssa Toundouri veuille bien nous rejoindre dans ce studio. Et en plus, pour nous faire gagner des cadeaux, puisque c'est l'heure du jeu de la dispute, ce soir on fait gagner des invitations pour l'exposition Joris Huysmans, critique d'art de Degas à Grunewald. Sous l'œil de Francesco Vesoli, ça va être le titre d'exposition le plus long de l'année. Cette exposition dure jusqu'au 1er mars 2020 au musée d'Orsay, nous en parlerons bien sûr. Mais quelle est la question, et c'est tout.
Durant quelles années Joris Carl Huysmans a-t-il présidé l'Académie Goncourt?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundouri, Lucine Como, Boris Pinault, David Dana, prise de son ce soir Marie-Claire Oumabadi, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute musique qui sera conduite par Lucile Como. Lucile sera en compagnie d'Anna Segalevitch, Emmanuel Dupuis et Charles Ardenne pour parler ensemble d'Un Américain à Paris, de Funny Girl, de Yes et un coup de cœur aussi pour le DVD Street Scene. Il y aura de la musique demain.